Elle tourna la tête du côté de Rénine, comme pour lui demander s'il n'y avait point péril à ce qu'elle parlât et divulgua la vérité. « Soyez sans crainte, » dit-il, « je réponds de tout. » Elle passa sa main sur son front. L'horrible scène revivait en elle et la torturait. Germaine Astin ne remuait pas, les bras croisés, les yeux troubles, tandis qu'Hortense Daniel attendait éperdument l'aveu du crime et l'explication de l'impénétrable mystère.
« C'est plus tard, et par ta faute, Germaine. J'avais remis le portefeuille dans le tiroir où il était caché, et ce matin je ne dis rien à Jacques. Je ne voulais pas lui dire que je savais, oh, c'était trop affreux. Pourtant, il fallait se hâter. Tes lettres annonçaient ton arrivée secrète pour aujourd'hui. Je pensais d'abord à m'enfuir, à sauter dans le train. Machinalement, j'avais pris ce poignard pour me défendre. Mais quand Jacques et moi nous sommes venus sur la plage, j'étais résigné. Oui, j'acceptais de mourir. Que je meure, pensais-je, mais que tout ce cauchemar finisse. Seulement, pour mes enfants, je voulais que ma mort parût accidentelle et que Jacques n'en fût pas accusé. C'est pour cela que ton plan de promenade sur la falaise me convenait. Une chute du haut d'une falaise semble tout naturel. Jacques me quitta donc pour aller dans sa cabine, d'où il devait plus tard te rejoindre aux Trois Mathildes. En route, au-dessous de la terrasse, il laissa tomber la clé de cette cabine. Je descendis et me mis à chercher avec lui. Et c'est là, par ta faute, oui Germaine, par ta faute, le portefeuille de Jacques avait glissé de la poche de son veston sans qu'il s'en aperçût. Et en même temps que ce portefeuille, une photographie que je reconnus aussitôt. Une photographie qui date de cette année et qui me représente avec mes deux enfants. Je la ramassai et je vis. Oh, tu sais bien ce que je vis, Germaine. Au lieu de moi sur l'épreuve, c'était toi. Tu m'avais effacé et remplacé par toi, Germaine. C'était ton visage. Un de tes bras enlaçait le cou de ma fille aînée et l'autre reposait sur tes genoux. C'était toi, Germaine, la femme de mon mari. Toi, la future mère de mes enfants. Toi qui allais les élever. Toi, toi. Alors j'ai perdu la tête. J'avais le poignard. Jacques était baissé. J'ai frappé.
Il n'y avait pas un mot de sa confession qui ne fût rigoureusement vrai. Ceux qui l'écoutaient en avaient l'impression profonde. Et pour Hortense et Rénine, rien n'était plus poignant et plus tragique. Elle s'était rassise, à bout de force. Cependant, elle continuait à prononcer des mots inintelligibles. Et ce n'est que peu à peu, en se penchant sur elle, que l'on put entendre
« Je croyais qu'on allait crier autour de moi. Je croyais qu'on allait crier autour de nous et m'arrêter. Rien. » Cela s'était produit de telle façon et dans de telles conditions que personne n'avait rien vu. Bien plus, Jacques s'était redressé en même temps que moi. Et voilà qu'il ne tombait pas. Non, il ne tombait pas. Lui que j'avais frappé, il restait debout. De la terrasse où j'étais remonté, je l'aperçus. Il avait remis sa veste sur ses épaules, évidemment pour cacher sa blessure. Et il s'éloignait sans vaciller, aussi peu que moi seul pouvais m'en rendre compte. Il causa même avec des amis qui jouaient aux cartes, puis il se dirigea vers sa cabine et disparut. Moi, au bout d'un moment, je rentrais. J'étais persuadé que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que je n'avais pas tué, ou que du moins la blessure était légère. Jacques allait sortir, j'en étais certaine. De mon balcon, je surveillais. Si j'avais pu croire une seconde qu'il avait besoin d'assistance, j'aurais couru là-bas. Mais vraiment, je n'ai pas su, je n'ai pas deviné. On parle de pressentiment, c'est faux. J'étais absolument calme. Comment on l'est justement après un cauchemar dont le souvenir s'efface ? Non, je vous le jure, je n'ai rien su jusqu'à l'instant.
Elle s'interrompit. Les sanglots l'étouffaient.
Jusqu'à l'instant où l'on vint vous avertir, n'est-ce pas ?
Oui. C'est alors seulement que j'eus conscience de mon acte. Et je sentis que je devenais folle, que j'allais crier à tous ces gens. Mais c'est moi, ne cherchez pas. Voici le poignard, c'est moi la coupable. Oui, j'allais crier cela. Quand tout à coup, je le vis. Lui, mon pauvre Jacques. On l'apportait. Il avait une figure très paisible, très douce. Et devant lui, je compris mon devoir, comme il avait compris le sien. Pour les enfants, il s'était tu. Je me tairais aussi. Coupables tous les deux du meurtre dont il était victime, l'un et l'autre, nous devions tout faire pour que le crime ne retombât pas sur eux. Dans son agonie, il avait eu la vision claire de cela. Il avait eu le courage inouï de marcher, de répondre à ceux qui l'interrogeaient, et de s'enfermer pour mourir. Il avait fait cela, effaçant d'un coup toutes ses fautes, et par là même m'accordant son pardon, puisqu'il ne me dénonçait pas, et qu'il m'ordonnait de me taire, et de me défendre contre tous, contre toi surtout, Germaine.
Elle prononça ces dernières paroles avec plus de fermeté. Bouleversée d'abord par l'acte inconscient qu'elle avait commis en tuant son mari, elle retrouvait un peu de force en pensant à ce qu'il avait fait, lui, et en s'armant elle-même d'une pareille énergie. En face de l'intrigante dont la haine les avait conduits tous deux jusqu'à la mort et jusqu'au crime, elle serrait les poings, prête à la lutte, toute frémissante de volonté. Elle ne bronchait pas, Germaine Astin. Elle avait écouté sans un mot, avec un visage implacable, dont l'expression prenait plus de dureté à mesure que les aveux de Thérèse devenaient plus précis. Aucune émotion ne semblait l'attendrir, et aucun remords la pénétrait. Tout au plus, vers la fin, ses lèvres minces eurent-elles un léger sourire, comme si elle se fût réjouie de la façon dont les événements avaient tourné. Elle tenait sa proie. Lentement, les yeux levés vers une glace, elle rajusta son chapeau et se mit de la poudre de riz. Puis elle marcha vers la porte. Thérèse se précipita.
« Où vas-tu ? »
« Où ça me plaît ? »
« Voir le juge d'instruction ? » ?»«
Probable. » »«
Tu ne passeras pas. » »«
Soit. Je l'attendrai ici. » »«
Et tu lui diras ? » ?»«
Parbleu. Tout ce que tu as dit ? » ?»« Tout ce que tu as eu la naïveté de me dire ? » ?»« Comment douterait-il ? » ?»« Tu m'as donné toutes les explications. »
Thérèse la saisit aux épaules.
« Oui, mais je lui en donnerai d'autres en même temps, Germaine, et qui te concernent, toi. Si je suis perdu, tu le seras aussi. »«
Tu ne peux rien contre moi. »«
Je peux te dénoncer, montrer les lettres. »«
Quelles lettres ? » ?»«
Celles où ma mort est résolue. » »«
Mensonge, Thérèse. Tu sais bien que ce fameux complot contre toi n'existe que dans ton imagination. Ni Jacques ni moi ne voulions ta mort. » »«
Tu la voulais, toi. »
Tes lettres te condamnent. Mensonge ! C'était des lettres d'une amie à un ami.
Des lettres de maîtresse et de complice.
Prouve-le.
Elles sont là, dans le portefeuille de Jacques.
Non.
Qu'est-ce que tu dis ?
Je dis que ces lettres m'appartenaient. Je les ai reprises. Ou plutôt, mon frère les a reprises.
Tu les as volées, misérable ! Et tu vas me les rendre !
S'écria Thérèse en la bousculant.
« Ah, mais je ne les ai plus ! Mon frère les a gardés. Il les a emportés.
Il me les rendra.
Il est parti.
On le retrouvera.
On le retrouvera certainement, mais pas les lettres. De telles lettres se déchirent. »
Thérèse chancela, étendit les mains du côté de Rénine d'un air désespéré.
« Ce qu'elle dit est la vérité. J'ai suivi le manège du frère, tandis qu'il fouillait dans votre sac. » Il a pris votre portefeuille, il l'a visité devant sa sœur, il est revenu le remettre en place et il est parti avec les lettres. »
Rénine fit une pause et ajouta
« Ou du moins avec 5 des lettres. »
La phrase fut prononcée négligemment. Mais tous, ils en saisirent l'importance considérable. Les deux femmes se rapprochèrent de lui. Que voulait-il dire? Si Frédéric Astin n'avait emporté que 5 lettres, où donc se trouvait la 6e?
Je suppose que, quand le portefeuille a glissé sur le galet, cette lettre s'est échappée en même temps que la photographie, et que M. d'Imbreval a dû la ramasser.
Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous?
Demanda Mme Astin d'un ton saccadé.
Je l'ai retrouvée dans la poche de son veston de flanelle, que l'on avait accroché près du lit.
La voici. Elle est signée Germaine Astin, et elle suffit amplement à établir les intentions de celle qu'il écrit et les conseils de meurtre qu'elle donnait à son amant.
Je suis même confondu qu'une telle imprudence ait pu être commise par une femme aussi habile.
Madame Astin était livide et si décontenancée qu'elle ne chercha pas à se défendre. Rénine continua en s'adressant à elle.
« Pour moi, madame, vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Ruinée, sans doute, à bout de ressources, vous avez voulu profiter de la passion que vous inspiriez à M. d'Imbreval pour vous faire épouser, malgré tous les obstacles, et pour mettre la main sur sa fortune. Cet esprit de lucre, ces calculs abominables, j'en ai la preuve, et je pourrai la fournir. Quelques minutes après moi, vous avez fouillé dans la poche de ce veston de flanelle. J'en avais enlevé la 6e lettre, mais j'y avais laissé un bout de papier que vous cherchiez ardemment et qui, lui aussi, avait dû tomber du portefeuille. C'était un chèque au porteur de 100 000 francs, signé par M. d'Imbreval au profit de votre frère. Simple cadeau de noces, ce qu'on appelle une épingle de cravate. Selon vos instructions, votre frère a filé en auto vers le Havre et, sans aucun doute, s'est présenté avant 4 heures à la banque où cette somme était déposée. Je dois vous avertir en passant qu'il ne la touchera pas, car j'ai fait téléphoner à cette banque pour annoncer l'assassinat de M. d'Imbreval, ce qui suspend tout paiement. De tout cela, il résulte que la justice aura entre les mains, si vous persistez dans vos projets de vengeance, toutes les preuves nécessaires contre vous et votre frère. Je pourrais y ajouter, comme témoignage édifiant, le récit de la conversation téléphonique que l'on a surprise entre votre frère et vous la semaine dernière. Conversation où vous parliez en espagnol mitigé de javanais. Mais je suis sûr que vous ne m'obligerez pas à ces mesures extrêmes et que nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ?
Rénine s'exprimait avec un calme impressionnant. Et la désinvolture d'un monsieur qui sait que personne n'élèvera la moindre objection contre ses paroles. Il semblait vraiment ne pas pouvoir se tromper. Il évoquait les événements tels qu'ils s'étaient produits et en tirait les conclusions inévitables qu'il comportait en bonne logique. Il n'y avait qu'à se soumettre. Madame Astin le comprit. Des natures comme la sienne, violentes, acharnées tant que le combat est possible et qu'il reste un peu d'espoir, se laissent aisément dominer dans la défaite. Germaine était trop intelligente pour ne pas sentir que la moindre tentative de révolte serait brisée par un tel adversaire. Elle était entre ses mains. En de pareils cas, on s'incline. Elle ne joua donc aucune comédie et ne se livra à aucune démonstration, menace, explosion de rage, crise de nerfs, etc. Elle s'inclina.
« Nous sommes d'accord. Qu'exigez-vous ? »
« Allez-vous-en.
Si jamais on invoque mon témoignage ? » ?»«
On ne l'invoquera pas. »
Cependant,
répondez que vous ne savez rien.
Elle s'en alla.
Au seuil de la porte, elle hésita. Puis, entre ses dents,
le chèque ?
Rénine regarda Madame d'Imbreval qui déclara
« Qu'elle le garde ! Je ne veux pas de cet argent !»
Lorsque Rénine eut donné à Thérèse d'Imbreval des instructions précises sur la façon dont elle devait se comporter et répondre aux questions qui lui seraient posées, il quitta le chalet, accompagné d'Hortense Daniel. Là-bas, sur la plage, le juge et le procureur continuaient leur enquête, prenaient des mesures, interrogeaient les témoins et se concertaient entre eux.
« Quand je songe que vous avez sur vous le poignard et le portefeuille de M. d'Imbreval ?»«
Et cela vous semble infiniment dangereux. Moi, cela me semble infiniment comique. »«
Vous n'avez pas peur ?»«
De quoi ?»«
Que l'on ne se doute de quelque chose. » »«
Seigneur Dieu, on ne se doutera de rien. Nous allons raconter à ces braves gens ce que nous avons vu. Témoignage qui ne fera qu'augmenter leur embarras, puisque nous n'avons rien vu du tout. » Par prudence, nous resterons un jour ou deux pour veiller au grain. Mais l'affaire est réglée. Ils n'y verront jamais que du feu.
Cependant, vous avez deviné, vous, et dès la première minute. Pourquoi ?
Parce que, au lieu de chercher midi à 14h, comme on le fait en général, je me pose toujours la question comme elle doit être posée. Et la solution vient tout naturellement. Un monsieur entre dans sa cabine et s'y enferme. On l'y trouve mort une demi-heure plus tard. Personne ne s'y est introduit. Que s'est-il passé ? Pour moi, la réponse est immédiate. Pas même besoin de réfléchir. Puisque le crime n'a pas été commis dans la cabine, c'est qu'il a été commis auparavant et que le monsieur, en entrant dans sa cabine, était déjà frappé à mort. Et tout de suite, en l'espèce, la vérité m'est apparue. Madame d'Imbreval, qui devait être tuée ce soir, a pris les devants. Et tandis que son mari se baissait, en une seconde d'égarement, elle a tué. Il n'y avait plus qu'à chercher les motifs de son acte. Quand je les ai connus, j'ai marché à fond pour elle. Voilà toute l'histoire. Le soir commençait à tomber. Le bleu du ciel devenait plus sombre. La mer plus paisible encore.
À quoi pensez-vous ?
Demanda Rénine au bout d'un moment.
Je pense que si j'étais victime à mon tour de quelque machination, je garderais confiance en vous, quoi qu'il arrive, confiance envers et contre tous. Je sais, comme je sais que j'existe, que vous me sauveriez, quels que soient les obstacles. Il n'y a pas de limite à votre volonté.
Il dit très bas : « Il n'y a pas de limite à mon désir de vous plaire. »